et à toutes. Je vais essayer de ne pas être trop long pour pouvoir nous libérer rapidement pour notre fête de Noël de tout à l'heure. Je vois que la décoration nous laisse un aperçu de ce que nous allons vivre tout à l'heure, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué la décoration? Hein, c'est vraiment magnifique, c'est très beau. C'est très beau. Donc nous allons poursuivre notre réflexion sur l'épître de Paul aux Romains. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, parce que c'est une série de messages qui se coordonnent très bien avec l'enseignement que Jean-Claude apporte le vendredi soir à l'étude biblique. Là, entre parenthèses, j'encourage tout le monde à venir, puisque nous sommes en train d'étudier la notion les uns les autres. Et c'est vrai que dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament en particulier, la notion les uns les autres revient très souvent, et ce n'est pas pour rien. Vous savez, lorsque Dieu répète plusieurs fois la même chose, c'est parce que c'est important, n'est-ce pas? Donc la dernière fois, nous avons vu, au chapitre 14, les 12 premiers versets, qui étaient, le thème c'était le respect des frères dans la foi. Vous savez, lorsqu'on entre dans une église locale, la première chose qu'on doit ressentir et qu'on doit manifester envers l'autre, c'est le respecter, n'est-ce pas? Hein? Lorsque je vais quelque part, j'attends qu'on me respecte et je dois aussi respecter ceux qui m'accueillent. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, on va lire ensemble les versets 13 à 23, où nous voyons que Paul, il va crescendo, il va un peu plus loin. Donc, si dans un premier temps, c'est le respect, maintenant Paul va accentuer sa réflexion sur le souci de l'autre, se soucier des frères dans la foi. D'abord, respecter, mettons se soucier des frères. Lisons ensemble, mes amis. Versets 13 à 23. Chapitre 14, Romains. Romains 14, 13, 23. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. J'avoue que je n'ai pas trop cette traduction, mais c'est celle que j'ai. J'ai voulu faire le beau en achetant une nouvelle Bible, mais j'ai pas bien vérifié la traduction. Vous savez, rien ne vaut qu'une bonne traduction ancienne qu'on a. Hein. Allez, non. Donc, Romains 14, versets 13 à 23. Voilà. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches donc plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je reconnais que c'est un texte qui n'est pas facile. Pas facile, mais il faut l'étudier. Il faut parler dessus. Je me répète, donc jusqu'au verset 12, Paul parlait du respect. Et à partir du verset 13, Paul fait une sorte de transition pour aborder un autre aspect plus profond dans les relations fraternelles. S'il a parlé de respect, maintenant il va parler de se soucier des uns des autres, se soucier de son frère. Qui veut dire prendre en considération son cheminement, prendre en considération sa personne par rapport à ce qu'il vit avec le Seigneur et l'œuvre de Dieu. Vous savez, lorsque nous vivons entre nous, il y a des règles. Jean-Claude a rappelé la dernière fois, dans un de son enseignement, que la règle d'or, c'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Hein, c'est la règle d'or. Dans ce passage, Paul aussi va souligner une autre règle d'or. Dans ce passage, hein, je ne dis pas dans toute la Bible, mais dans ce passage, pour Paul, la règle d'or, dans ce passage, hein, c'est ne pas juger le frère, mais plutôt faire qu'il soit édifié. Lorsque je me soucie de mon frère, la règle d'or, c'est de ne pas le juger, mais de tout faire pour son édification. Ne pas le juger et tout faire pour son édification, on pourrait dire c'est comme le résumé de la pensée de Paul dans ces versets que nous venons de lire. On pourrait dire que sur cette règle d'or, c'est le principe sur lequel Paul va fonder toute sa pensée. Si dans les 12 premiers versets, Paul a parlé de ceux qui sont forts et de ceux qui sont faibles dans la foi, il semblerait que dans les versets 13 à 23, Paul parle plus précisément à ceux qui sont forts. C'est aux forts qu'il est demandé de faire un effort dans le but de l'édification de l'autre. Pourquoi c'est aux forts qu'il est demandé cela? Parce que le fort, ce qui n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est celui qui avance spirituellement dans le Seigneur, suivant sa liberté qu'il a reçue en Jésus-Christ, suivant ses convictions qu'il a en Jésus-Christ. Donc Paul dit au fort de ne pas juger l'autre. La grande question c'est comment un chrétien dont les convictions lui permettent de manger de tout doit-il se comporter avec celui qui est plus faible dans la foi par rapport à ses aliments, sommes d'accord que les aliments, c'est un exemple. Puisque à l'époque, c'était la question fondamentale, est-ce qu'il fallait manger ceci ou est-ce qu'il fallait manger des aliments sacrifiés aux idoles ou pas? Bon, c'était la question de l'époque. Ce qui est bon de comprendre, c'est le principe que Paul veut dégager dans cela, nous sommes d'accord. Donc, il y a une exhortation par Paul à ce que le fort se fasse une autocritique pour ne rien faire qui puisse faire tomber son frère ou sa sœur. Paul nous invite à un bon usage de notre liberté en Jésus-Christ. Un chrétien devrait plutôt se juger lui-même et juger ses actes afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour son frère que de vouloir lui faire la leçon par sa liberté. Parce qu'effectivement, celui qui est fort spirituellement, donc c'est celui qui avance avec le Seigneur, il a une certaine liberté. Mais la question c'est, comment doit-il agir avec sa liberté? Est-ce que le fait que je sois libre de manger ce que je veux me permet d'avoir un comportement par rapport aux autres et faire ce que je veux? Je vais développer, c'est pas évident. Les chrétiens qui se croient forts, qui se croient affermis dans la foi, devraient employer leur jugement à maintenir la paix dans la communauté et à faire grandir dans la foi ceux qui sont plus faibles, quitte à renoncer à leurs privilèges et à leurs propres intérêts. Je me sens fort grâce à Dieu parce que mon cheminement dans la foi me permet d'avoir des convictions spirituelles fortes basées sur la parole de Dieu. Entre guillemets, je peux manger ce que je veux. Donc, je peux faire entre guillemets ce que je veux. Mais est-ce que le fait de pouvoir faire ce que je veux est bien en soi? Si je suis dans une communauté, quelle devrait être mon attitude, moi qui me sens fort, par rapport aux autres? Comment un chrétien qui a été affranchi par le Seigneur Jésus-Christ et qui se sent libre dans le Seigneur, comment peut-il exercer sa liberté dans l'Église ou d'autres frères qui n'ont pas le même cheminement que lui? Peut-il faire ce qu'il veut parce qu'il est libre en Christ? Est-ce que je peux faire ce que je veux dans l'Église parce que je suis libre en Christ? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que aujourd'hui, parce que je suis libre en Jésus-Christ, je peux faire ce que je veux lorsque je vais à l'Église? Est-ce que je peux... Voilà. Je suis sauvé, j'ai ma conviction d'être sauvé, j'ai le salut, le pardon des péchés, j'ai la vie éternelle. Est-ce que je peux faire ce que je veux dans l'Église? Sur cette problématique, Paul va répondre. Paul va dire, avant tout, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel qui doit m'amener à considérer mon comportement par rapport aux autres. Qu'est-ce qui doit motiver ma liberté dans l'Église? Et Paul dit avec force que c'est l'amour fraternel. L'amour pour celui pour lequel le Christ est mort. Parce que dans l'Église, mes amis, dans l'Église, fort comme faible, Christ est mort pour les forts comme pour les faibles. Nous sommes d'accord? Amen. Donc si le Christ est mort pour mon frère qui est plus faible que moi dans la foi parce que c'est son cheminement, je dois l'aimer au même titre que Christ m'a aimé, moi qui suis un peu plus avancé. Et Paul nous dit, d'accord, tu es libre, béni soit le Seigneur, tu es affranchi, tu es libre. Tu es libre dans le sens où tu vis ta vie chrétienne normalement. Tu as une certaine liberté en Jésus-Christ. Mais attention, par amour fraternel, tu dois considérer cette propre liberté par rapport à ton frère, qui est plus faible que toi, qui avance plus lentement. Et nous devons tous apprendre à user sagement de notre liberté. Et c'est vrai que c'est un apprentissage qui est assez long. Savoir doser notre liberté, c'est assez long. Et l'attitude du fort devrait ressembler à celle du Christ. Et qu'a fait le Christ ? Il a donné sa vie par amour pour le faible. Le Christ, par amour, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Le Christ a renoncé à ses privilèges pour donner sa vie. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, par amour pour notre frère, nous devons être prêts aussi à renoncer à nos privilèges, à notre liberté, pour le bien-être de l'autre. L'amour fraternel doit l'amener, donc doit amener le fort, à reconsidérer sa position par rapport à sa liberté. Il est nullement question que le fort abandonne ses convictions, puisqu'il a ses convictions en Jésus-Christ par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Il est nullement question qu'il abandonne ses convictions, mais simplement, hein, puisqu'il est dit au verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » S'il y a une vraie joie à vivre ses convictions devant Dieu, et ont été éclairées par la parole du Seigneur, mais là, il est plutôt question des priorités dans ses jugements. Le jugement du fort doit concerner ses priorités. Doit-il mettre en avant sa liberté ou placer l'intérêt du frère ? Dans l'Église, est-ce que je dois mettre en avant ma propre liberté ou l'intérêt de l'autre ? Si je recherche l'intérêt de l'autre, je recherche son édification. Et Paul met l'accent sur l'édification mutuelle. Nous sommes appelés à rechercher l'édification de l'autre, quitte à renoncer à ma propre liberté, quitte à renoncer à mes propres intérêts, quitte à renoncer à mes privilèges. N'oublions pas l'exemple Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Christ a renoncé à ses privilèges pour nous sauver, pour rechercher notre édification dans la foi. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir aussi le même principe de vie, la même philosophie de vie. Comme nous l'étudions dans le cours d'ITA, les mêmes habitudes de cœur. Là aussi, entre parenthèses, j'encourage ceux qui n'ont pas encore un groupe d'ITA à venir le dimanche matin à 9h30. Donc, nous devons avoir des habitudes de cœur. Et ces habitudes de cœur sont calquées sur l'image de Jésus-Christ. Comme je le disais, hein, la question de la nourriture, ce que je mange ou ce que je ne mange pas, bio ou pas bio, c'est pas ça le problème fondamental. Parce que pour Paul, ça reste un sujet secondaire. Même si ça peut troubler, je reconnais que ça peut troubler. Mais pour Paul, c'est pas un sujet fondamental. Ce que Paul vise, c'est que chacun d'entre nous, nous ayons à cœur l'autre. Vous savez, se soucier de l'autre veut dire à cœur l'autre. Est-ce que lorsque je suis dans l'église, j'ai à cœur mon frère ? Lorsque je dis à cœur, c'est pas savoir si à midi ou ce soir, il va manger du caviar ou du champagne. Quoique, pourquoi pas. Mais avoir à cœur son frère, ce n'est pas ça. C'est est-ce que j'ai vraiment à cœur que mon frère ou ma sœur grandit dans la foi ? Que mon frère ou ma sœur fait des progrès spirituels ? Que la parole de Christ habite pleinement dans sa vie ? Est-ce que j'ai à cœur cela ? Est-ce que j'ai à cœur que le Christ manifeste toujours plus dans sa vie le fruit de l'Esprit ? Est-ce que j'ai à cœur que mon frère ou ma sœur grandit dans l'espérance de la gloire ? Est-ce que j'ai à cœur que mon frère ou ma sœur renonce toujours plus au péché ? Est-ce que j'ai à cœur que mon frère ou ma sœur se détourne du mal ? Renonce au piège du diable ? C'est ça, mes amis, avoir à cœur cela. Si vraiment j'ai à cœur que lorsque je vois mon frère, je sais que dans la semaine, mon frère ou ma sœur a fait des expériences spirituelles avec Jésus-Christ, a grandi, que mon frère ou ma sœur est plus forte, est plus fort dans la foi. Oui, ça c'est bien. C'est ça, avoir cœur. Hein? Que mon frère ou ma sœur trouve sa place dans l'Église, manifeste les dons que Dieu lui a donnés. Que mon frère ou ma sœur devienne des piliers dans l'Église, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Oui, ça. Ça, mes amis, avoir à cœur mon frère ou ma sœur. Et c'est ce que Paul nous dit dans ce passage, que nous recherchons l'édification des uns et des autres. En deux mots, vous savez, lorsque je viens dans l'église, lorsque je me soucie du frère ou de la sœur, quelque part, je dois me soucier de l'œuvre de Dieu. Est-ce que je me soucie de l'œuvre de Dieu dans l'église ? Est-ce que je me soucie de l'œuvre de Dieu dans ce monde ? Est-ce que je prends part à l'œuvre de Dieu ? Est-ce que je prends part à l'avancement du règne de Dieu sur cette terre, dans l'église locale, là où Dieu m'a placé ? Et si vraiment, mes amis, j'ai à cœur cela, non seulement j'ai une foi ferme, mais je suis approuvé des hommes et approuvé de Dieu. Amen. Vous voyez, donc, c'est plus que la question, est-ce qu'à midi j'ai mangé du porc ou est-ce qu'à midi j'ai mangé un boudin ? C'est plus que ça. Même si je reconnais que ça peut choquer, mais Paul va plus loin que ça. Et dans la Bible, il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter sur aller plus loin. Et ça, c'est grâce à l'enseignement de la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu habite en moi, plus je comprends la pensée du Seigneur. Amen. C'est vrai que aimer Jésus-Christ, cela coûte. Aimer Jésus-Christ a un prix. Et ce prix, hein, lorsque j'aime Jésus-Christ, mais c'est aussi être prêt à renoncer à mes privilèges. C'est être prêt à renoncer à mon mode de vie confortable, spirituellement parlant. Imaginons le fils d'un PDG d'une grosse entreprise qui a un mode de vie assez aisé. Et que le fils de ce PDG un jour décide de renoncer à tous ses privilèges. Il se met à faire la mendicité, etc. On va dire, mais c'est choquant. Mais par contre, si on apprend par la suite que le fils de ce PDG qui se met à faire de la mendicité était pour une cause humanitaire, appeler les consciences à prendre conscience de la pauvreté dans ce monde, hein, que le gouvernement, je sais pas, devrait faire plus pour les pauvres. On pourrait dire que c'est une démarche qui est louable, oui ou non? Mais pareil, mes amis, L'amour a un prix. L'amour, aimer Jésus-Christ, a un prix. Je dois être prêt à renoncer à mes privilèges. Je dois être prêt à renoncer à ma propre liberté pour le bien de l'autre, pour l'édification du frère. Et lorsque Dieu me voit, parce que Dieu voit toutes choses, on ne peut rien cacher au Seigneur, mais lorsque Dieu voit que dans mon cœur, j'ai ce désir d'être prêt à renoncer à mes propres privilèges pour l'édification de l'autre, non seulement Dieu est béni, mais Dieu fait avancer son œuvre. Amen. Ce qui doit dicter ma conduite ne doit pas être mes convictions, mes opinions ou ma liberté. Bien que nous sommes tous libres d'agir avec sagesse et discernement. Il n'est pas question de renoncer dans le sens mauvais du terme. Il n'est pas question de renoncer à ses convictions, ni ses opinions, ni à sa liberté. Mais là, il est question d'agir avec sagesse et discernement. Lorsque j'agis avec sagesse et discernement, je sais à quel moment je dois faire un pas en arrière pour mettre l'autre en avant. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, par sa parole, qui me donne cette conviction. Parce que je marche fidèlement avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu habite pleinement en moi. Et lorsque cette parole habite pleinement en moi, automatiquement, Dieu me donne les occasions, avec sagesse et discernement, de pouvoir faire le pas en arrière, pouvoir mettre le bas sur la bouche. Hein, ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. Notre frère Patrick, avec beaucoup de sagesse, une fois nous l'a enseigné. C'est vrai, savoir mettre le frein à sa bouche. Même si nous sommes peut-être dans le vrai. Mais savoir renoncer à nos privilèges. Donc, dans l'Église, nous sommes appelés à user de cette sagesse et de ce discernement à des moments bien précis pour que l'autre puisse avancer et grandir. Hein, comme c'est écrit, avec sagesse et discernement, je dois tout faire pour désirer l'épanouissement du frère dans la foi. Je dois être désireux de voir grandir dans sa relation avec Dieu et de voir s'épanouir dans l'Église. Paul rappelle que les sujets secondaires, la nourdana, ne sont pas l'essentiel. Mais quel est l'essentiel dans la vie d'Église, mes amis? C'est le verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans l'Église, le royaume de Dieu, c'est quoi dans l'Église? C'est quoi dans l'Église, le royaume de Dieu? C'est nous? Oui, mais plus concrètement, c'est quoi? Oui, d'accord. Ouais, c'est le corps du Christ. Mais dans ce passage, mes amis, le royaume de Dieu, ce sont nos relations. Nos relations les uns avec les autres. Si dans nos relations les uns avec les autres, nous vivons la paix, nous vivons la justice, nous vivons la joie, c'est le royaume de Dieu. Bien sûr, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit produire en nous cette qualité de vie dans la justice, dans la paix, et dans la joie. Effectivement, quelqu'un qui ouvre la porte et qui nous voit vivre cela dira effectivement Dieu est parmi eux. C'est le royaume de Dieu. Mais vivre en paix, dans la joie et dans la justice, c'est tout simplement laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place dans nos relations. Parce que c'est l'Esprit qui est la source de ces trois domaines est portant dans la vie d'Église, le Saint-Esprit. Mais pour que l'Esprit agisse dans nos relations, il faut que l'Esprit agisse déjà par moi, en moi. Mais pour que l'Esprit agisse en moi, qu'est-ce qu'il faut, mes amis ? Il faut que la parole de Christ habite pleinement en moi. Donc, ITA. Donc, l'étude biblique le vendredi soir. Mais, vous savez, il n'y a pas de mystère dans la vie, mes amis. Il n'y a pas de mystère. Pour que l'Esprit... Je répète. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est... Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Et nous avons vu que le royaume de Dieu, ce sont nos relations. C'est notre comportement. C'est ce que nous vivons. C'est ça le royaume de Dieu. Justice, paix et joie viennent du Saint-Esprit. Pour que ces trois domaines se manifestent dans l'Église, il faut que l'Esprit se manifeste dans l'Église. Mais pour que l'Esprit se manifeste dans l'Église, il faut d'abord que l'Esprit se manifeste en moi. Mais pour que l'Esprit se manifeste en moi, il faut que la parole de Dieu habite en moi. Et plus cette parole habite en moi, tout naturellement, l'Esprit se manifeste en moi. L'Esprit manifeste son fruit. L'Esprit manifeste la vie de Jésus. Parce que, quelle est la volonté de Dieu ? Quel est le but de Dieu ? C'est que son Esprit, qui habite en moi, manifeste pleinement la vie de Jésus. Lorsqu'on me dit de rechercher les choses d'en haut, vous savez, dans le cours d'ITA, on a beaucoup réfléchi dessus. Ça veut dire quoi, rechercher les choses d'en haut ? Ça veut dire simplement vivre comme Jésus a vécu. Si je recherche à vivre, si je suis comme modèle le Seigneur Jésus-Christ, si je m'identifie à Jésus-Christ, à vouloir vivre comme il a vécu, automatiquement, je vis les choses en haut. Et automatiquement, sa parole manifeste en moi tout le caractère du Christ. Et nous savons tous que la justice, hein, c'est rechercher une vie juste, les uns avec les autres, dans le respect des personnes et des convictions. Vivre une vie juste, c'est rechercher une vie dans le respect des personnes et des convictions. On doit être prêt à rendre au prochain ce qui lui est dû, le respect de ses convictions. La paix, la bonne harmonie entre tous les membres de l'Église. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Hein? Matthieu 5, verset 9. La joie, hein, qui est l'élan spirituel, individuel et collectif, qui règne chez les fidèles quand la communion fraternelle fait sentir sa douceur. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire dessus. Paul poursuit en disant que non seulement je dois rechercher l'édification de l'autre, chercher à ce qu'il puisse grandir dans la foi, mais aussi ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement. Littéralement, une cause de scandale. Je dois chercher l'édification de mon frère. D'accord. Mais pour cela, je ne dois rien faire qui soit pour lui une occasion de chute ou de scandale. Donc là, ça ramène à ma manière de vivre, à mon comportement. Est-ce que ma propre liberté peut devenir une occasion de chute pour mon frère? Alors si dans ma propre liberté, puisque j'agis selon mes convictions, heureux celui qui agit selon ses propres convictions, mais si en agissant avec mes propres convictions, donc ma propre liberté, je peux devenir une occasion de chute pour mon frère, Paul me dit, attention, là tu ne marches plus selon l'amour. Donc par amour pour ton frère, par amour pour l'œuvre de Dieu, renonce. Renonce à cette liberté. Que ta liberté ne devienne pas une occasion de chute pour ton frère. Et nous avons compris que par liberté, ta manière de te comporter, ta manière de faire. L'aspect pratique, nous devrions mettre toute notre énergie et faire tous nos efforts pour vivre dans l'harmonie par le Saint-Esprit. Se soucier des uns et des autres, c'est se soucier de l'œuvre de Dieu. S'occuper du royaume du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Corinthiens 8, verset 9. Nous devons prendre la décision de ne rien faire qui puisse freiner le progrès spirituel de notre frère. Notre jugement ne doit pas porter sur les convictions de l'autre, mais plus sur ma capacité à juger du comportement que je dois prendre à l'égard de celui qui est mal affermi dans la foi. Notre jugement ne doit pas porter sur les convictions de l'autre, mais plus sur ma capacité à juger du comportement que je dois prendre à l'égard de celui qui est mal affermi dans la foi. Nous devons veiller au bien-être des uns et des autres. Nous devons vivre en paix. Voilà. Nous devons vivre en paix. Je vais conclure tranquillement. Nous sommes appelés à servir le Seigneur dans un esprit d'abnégation. Nos intérêts doivent passer après ceux du royaume de Dieu. Et c'est le nœud du problème. Qu'est-ce que je place en premier ? Est-ce que je place mes intérêts ? Est-ce que je place ma liberté ? Est-ce que je place mes droits ? Ou est-ce que je place en premier l'édification des uns et des autres ou le royaume de Dieu ? J'ai bien marqué aussi, est-ce que je place en premier la réputation de l'Église ? Est-ce que mon Église locale, est-ce que l'Église que je fréquente fidèlement, l'Église où je sers le Seigneur, a une bonne réputation par mon comportement ? Est-ce que j'entends dire du mal de mon Église à cause de moi ? Alors mes amis, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, en premier, que Dieu nous aide dans sa grâce à laisser sa parole pleinement habiter en nous pour que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste plus en nous par son esprit afin que nous recherchions l'intérêt de l'autre, l'édification de l'autre et non pas nos propres intérêts. Même si, par la liberté que nous avons en Christ, nous pouvons, entre guillemets, faire ce que nous voulons. Ce qui est important, mes amis, c'est l'édification de l'autre et l'avancement du royaume de Dieu. Alors que Dieu nous garde dans sa grâce et qu'il nous bénisse. Amen.